CNRS, la radio aux journées nationales de l'innovation en santé, organisée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé et Universcience.
Bonjour, bienvenue sur CNRS, la radio. Nous sommes en direct à la Cité des Sciences et de l'Industrie à l'occasion des journées Innovation et Santé. Nous sommes réunis autour de cette table pour parler d'un sujet brûlant d'actualité, bactéries, microbiote et santé. Personne n'aurait imaginé que l'intestin et sa flore bactérienne donneraient un jour naissance à un phénomène de librairie. C'est pourtant ce qui s'est passé avec le livre publié récemment par une jeune étudiante en médecine. Tout le monde connaît le charme discret de l'intestin, un best-seller traduit dans plus de 25 pays. Donc manifestement, le microbiote passionne et passionne évidemment les chercheurs. Il ne se passe pas un mois sans qu'une nouvelle publication scientifique ne mette en évidence son rôle dans notre santé globale. Le microbiote aurait des liens directs avec le diabète, l'obésité, mais aussi la dépression ou encore les maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn ou l'arthrite. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui deux chercheurs spécialistes du microbiote. Julien Dana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en immunologie à l'Institut Necker Enfants Malades. Vous avez réussi à établir un lien direct entre le microbiote et le diabète. Karine Clément, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes médecin, spécialiste de la nutrition, pardon. Vous travaillez à la Pitié-Salpêtrière au sein de l'Institut Cardiométabolisme et Nutrition. Vous vous intéressez tout particulièrement au lien entre l'obésité et le microbiote.
Absolument.
Alors, on va y aller doucement. Julien Dana, pour commencer, une question toute simple, peut-être pour éclairer nos auditeurs, c'est quoi le microbiote ?
Alors, le microbiote, c'est un ensemble de bactéries, de virus et de champignons qui vivent en symbiose avec nous. Donc, on le retrouve dans la peau, mais principalement, donc dans le, on parle de la flore intestinale, c'est 90% du microbiote. Mais il y a aussi des microbiotes dans la cavité buccale, donc sur la peau, comme je viens de le dire, et aussi au niveau des voies aériennes. Et donc ce microbiote, c'est vraiment un ensemble de micro-organismes qui vit en symbiose avec nous. C'est un peu il est tellement en symbiose avec nous qu'on peut le considérer comme un organe à part entière, puisqu'il est capable de réguler de nombreuses fonctions physiologiques dans notre corps.
On va y venir, mais déjà, ce que ça représente, c'est assez énorme. Rien que dans l'intestin, j'ai lu quelque chose comme 100 000 milliards de bactéries. C'est possible ?
Oui. Il y a beaucoup plus de cellules bactériennes en termes de nombre que de nos propres cellules. Et en termes de patrimoine génétique, il est aussi beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gènes bactériens que de gènes humains dans un corps humain.
Pareil, c'est 10 fois, 100 fois plus l'échelle.
Oui, c'est de l'ordre de 100 fois plus en termes de gènes. Oui.
D'accord. On savait depuis assez longtemps que la flore intestinale jouait un rôle dans la digestion notamment. Mais comment est-ce qu'on a pris conscience de son incroyable diversité, Karine Clément peut-être ?
Alors effectivement, le microbiote a de nombreux rôles. Vous avez évoqué la digestion, on connaît aussi sur la synthèse des vitamines, la maturation du système immunitaire. Le microbiote est capable de digérer des sucres complexe qu'on ne sait pas digérer parce qu'on n'a pas l'équipement enzymatique. Et dans le domaine de la nutrition, ce qui a été quand même une petite révolution pour des gens qui s'intéressent à la nutrition, ce sont les expériences de transfert.
Alors attendez, oui. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Donc moi, je voulais en fait vous amener sur le terrain de la génétique. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on connaît un peu plus intimement cette flore bactérienne qui peuple notre intestin.
Alors oui, effectivement, si on prend l'angle de la génétique, ce qui était difficile à étudier, puisque vous l'avez dit, 100 000 milliards de bactéries, un des problèmes pour l'intestin, c'est qu'elles vivent sans oxygène. Donc elles sont dites anaérobies. Et donc, des techniques de séquençage du génome, celles qu'on avait utilisées il y a 25 ans pour le séquençage du génome humain, ont été utilisées pour le séquençage du génome bactérien. Et c'est là, effectivement, qu'on a découvert qu'il y avait plus de 100 fois plus de gènes du génome bactérien en utilisant ces techniques de séquençage qui permet finalement d'ouvrir vers ce monde méconnu.
D'accord, donc ça c'était début, milieu des années 2000.
C'est début, milieu des années 2000, oui. C'est-à-dire que l'idée c'était de dire, on a séquencé le génome humain, on a à peu près 25 000 gènes, 23 000 gènes. Et donc en développant ces techniques, d'ailleurs les Français ont été quand même assez pionniers dans le domaine, en particulier à l'INRA. Et donc en utilisant cette technologie, on pourra ouvrir vers ce monde merveilleux des bactéries.
Ouais. Et donc c'est plusieurs milliers, plusieurs centaines d'espèces différentes ?
Alors, Dans les premières publications, ce qui a été montré, c'était à peu près... Alors, enfin, en termes de gènes déjà, plus de 3 millions de gènes. Et en fait, on se rend compte que plus on séquence des populations humaines ou des modèles animaux, on s'approche de plus en plus de 10 millions de gènes.
D'accord.
Et ça, ça correspond à des milliers d'espèces, de peut-être 3000 espèces.
D'accord. Donc, peut-être, je veux bien qu'on revienne effectivement assez rapidement sur les différentes fonctions de ces bactéries. Donc, elles nous rendent beaucoup de services, puisqu'en fait, on vit en symbiose avec elles, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent plus ou moins grâce à nous, et en retour, elles nous rendent beaucoup de services. Comme vous citiez la synthèse des vitamines, c'est ça, lesquelles ?
Par exemple, la vitamine B12, hein, c'est une vitamine qui est très importante pour l'organisme, et les bactéries jouent un rôle majeur, en fait, dans la synthèse des vitamines B12. Comme on l'a évoqué, la digestion de certains sucres, et en particulier les sucres complexes. L'amidon, par exemple, ça, c'est un point extrêmement important.
C'est des sucres complexes qu'on retrouve dans les fibres,
dans les végétaux, oui, absolument.
C'est ça, les végétaux, donc, d'accord, fruits, légumes...
Oui.
D'accord. Donc, sans elles ?
Sans elles, je pense qu'on ne pourrait pas vivre. Et donc, elles ont besoin de nous. Et alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un des enjeux, c'est également tout simplement leur survie à elles. C'est leur prolifération. Et finalement, nous les alimentons. Et parce qu'elles fabriquent, comme des petites usines, si vous voulez, elles produisent des éléments qui nous rendent service également.
D'accord. Julien Dana, est-ce que nous avons le même microbiote intestinal, nous tous, dans cette salle, autour de cette table ?
Non, chacun a un microbiote différent l'un de l'autre, même si il y a des grandes familles dans ce microbiote qui sont communes, bien sûr, à la plupart des individus, mais il y a une certaine régionalisation des microbiotes. Et le microbiote va se construire durant notre enfance, puisque nous naissons stériles.
D'accord.
On va acquérir le microbiote de notre mère durant l'accouchement. D'ailleurs, on a un microbiote un peu différent selon un accouchement par voie naturelle ou par césarienne. Et ensuite, ce microbiote va se construire en fonction de notre environnement, principalement, et en fonction de notre alimentation. Et ce qui va conduire après, avec des adultes, avec des microbiotes assez spécifiques.
D'accord. Et donc, dans le prolongement de cette question, est-ce que nous avons le même microbiote intestinal, chacun d'entre nous, tout au long de la vie ? On a des microbiotes différents les uns et les autres, mais moi, est-ce que j'ai le même tout au long de ma vie, par exemple ?
Non, parce que bien sûr, il y a le microbiote, il faut le voir, le microbiote intestinal, il faut le voir en contact en fait avec l'environnement extérieur, puisqu'il va être impacté par tout ce que nous mangeons. Il va être impacté, bien sûr, par tout ce qui est médicaments et notamment les antibiotiques, puisqu'il ne faut pas oublier que ce microbiote, donc, c'est des bactéries. Et donc, quand on a une prise d'antibiotiques qui vise à détruire une bactérie pathogène, on va aussi, bien sûr, profondément affecter notre microbiote intestinal. Ces molécules qui viennent de l'environnement vont modifier à court terme ou durablement notre microbiote intestinal.
D'accord. On sait aujourd'hui que les déséquilibres du microbiote ont des effets directs sur la santé. C'est ce que vous commenciez à nous dire. Ces bonnes bactéries, si on peut les appeler ainsi, produisent des tas de molécules qui aident au bon fonctionnement de notre organisme. Leur absence peut donc occasionner de vrais troubles. Karine Clément, vous avez mis en évidence le rôle du microbiote dans l'obésité. Alors, je ne sais pas si on va aller sur le côté cellulaire parce que c'est assez compliqué, mais par contre, il y a une expérience d'échange de microbiote chez la souris qui est tout à fait édifiante.
Alors oui, ça c'est encore... J'ai amorcé ça très rapidement tout à l'heure. Ce sont des expériences où on transfère en fait le microbiote, hein, et donc les selles, hein, pour être cru, soit de souris à souris, soit d'humain à souris. Et en fait, des chercheurs américains qui ont été les premiers à identifier les conséquences de ces transferts montrent que si vous transférez le microbiote d'une souris obèse dans une souris qui n'a pas de germes, elle va elle-même développer une obésité.
D'accord.
En revanche, si vous répétez l'expérience d'une souris non obèse chez une souris sans germes, elle ne va pas développer de prise pondérale. Et donc, ils sont même allés plus loin, en fait, ces chercheurs, c'est toujours la même équipe. Ils ont remis ces souris qui avaient reçu du microbiote, en l'occurrence d'humain, hein, parce qu'on peut répéter la même chose chez l'homme, d'humain obèse vers une souris sans germes, ou bien de personnes non obèses vers une souris sans germes, mais ils ont remis ensemble les animaux.
Donc la souris obèse et la souris non obèse.
Oui, voilà, celle qui avait reçu le microbiote, en l'occurrence chez l'homme, et c'était des frères et sœurs, en fait.
D'accord.
Et donc là, c'est assez étonnant, parce que la souris qui était devenue obèse par ce transfert de microbiote s'est améliorée, a perdu du poids et a amélioré son métabolisme, en particulier le diabète, et aussi ses taux de lipides. Alors pourquoi on peut se poser cette question? Parce que finalement, les souris vont échanger leur microbiote, elles mangent les crottes. Voilà. Et donc, et ça, ça marche que si les animaux mangent une alimentation qui est quand même plutôt saine, c'est-à-dire pauvre en graisse et riche en fibres. Donc ça, c'est très évocateur.
D'accord. Bah justement, j'allais vous y amener sur le terrain de l'alimentation. Donc elle joue effectivement un rôle primordial, notamment la consommation de fibres que vous évoquiez à l'instant, dans l'obésité. Donc hein, c'est ça, c'est...
Alors oui, ça, c'est probablement un des facteurs extrêmement importants, puisque les fibres sont les aliments des bactéries, en tout cas une partie. Et donc elle joue un rôle également dans la prolifération des bactéries et aussi leur bonne santé. Et notamment également sur leur diversité, leur richesse. Plus il y a de fibres, plus le microbiote est divers et riche. Et la diversité, c'est important.
D'accord. Donc Julien Dana, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous croyons, le diabète insulino-dépendant, qu'on appelle aussi diabète de type 1, n'est pas seulement génétique, mais aurait un lien direct avec l'alimentation également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Alors le diabète de type 1, comme vous le savez sûrement, c'est un diabète qui donc provient suite à la destruction des cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Donc on a besoin d'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Et donc notre système immunitaire va être défaillant. Donc cette défaillance a principalement des origines génétiques, mais pas uniquement. Et donc le système immunitaire va reconnaître nos cellules productrices d'insuline comme des cellules étrangères, et donc il va les détruire. Donc notre corps n'est plus capable de produire de l'insuline et donc n'est plus capable de réguler le taux de sucre dans le sang. Donc ça, c'est vraiment le...
Donc le diabète, c'est notre système immunitaire qui attaque les cellules du pancréas.
Voilà, le diabète auto-immun.
D'accord, ouais. Ok, d'accord. Ouais. D'accord. Et donc le lien avec le microbiote. Et
donc pendant longtemps, effectivement, on savait qu'il y avait une grosse composante génétique à ce diabète, mais on savait aussi que les facteurs environnementaux étaient très importants, puisque... certaines personnes qui n'ont pas de gènes prédisposants à la maladie vont quand même développer la maladie. Donc ça suggérait qu'il y avait des facteurs environnementaux qui pouvaient jouer sur le diabète auto-immun. Et on s'est intéressé aussi récemment à la flore microbienne dans le diabète auto-immun, parce que lorsqu'on utilise des souris qui n'ont pas de flore microbienne, le développement de la maladie va être modifié. Donc c'était les premiers travaux qui ont montré que la flore microbienne vraiment jouait un rôle prépondérant dans le développement de cette maladie. Et nous, ce que nous avons montré, c'est qu'en fait, la flore microbienne est capable de produire directement des molécules qui vont circuler jusqu'au pancréas et qui vont jouer un rôle de protection des cellules productrices d'insuline contre le système immunitaire.
D'accord, donc leur permet de survivre.
Elles vont leur permettre de fabriquer des petites molécules qui vont leur servir de carapace, ouais, et les protéger contre le système immunitaire.
D'accord, et donc... Dans l'alimentation, enfin, c'est encore une fois, j'ai l'impression, les bactéries qui dégradent les fibres, c'est ça, oui, qui sont impliquées.
Dans de nombreuses maladies, on se rend compte qu'effectivement, les bactéries capables de dégrader ces fibres sont bénéfiques dans de nombreux contextes pathologiques. Effectivement, à partir de la digestion de ces fibres, certains types de bactéries vont produire des petites molécules, des petits acides gras à courte chaîne, qui sont capables de circuler dans le sang. Et ainsi de toucher différents organes. Et nous avons montré qu'ils pouvaient directement aller dans le pancréas et dans le pancréas stimuler la protection des cellules bêta contre le système immunitaire.
D'accord. Alors je ne sais pas si ça a un rôle direct avec, un lien direct avec peut-être plus l'obésité, peut-être le diabète, je ne sais pas. Mais j'ai cru comprendre que c'est toujours les mêmes bactéries qui digèrent les fibres, en fait, influaient aussi sur le sentiment de satiété. Et permettait un peu de réguler l'appétit, même chez des personnes saines, non malades.
Oui, alors on parle pas mal de cette relation intestin-cerveau par l'intermédiaire de certes ces molécules qui est juste évoquée, et donc en particulier aussi par le système nerveux. En fait, ça envoie des signaux par les nerfs, en particulier le nerf vague, et donc on est en prise directe avec notre cerveau, enfin l'intestin est en prise directe avec notre cerveau. Et donc effectivement, les produits de ces digestions vont agir aussi sur la perception, sur le comportement alimentaire et en particulier sur la perception de satiété.
D'accord, très bien. Donc on comprend bien l'importance d'avoir un microbiote riche et diversifié. On parlait tout à l'heure de transfert de microbiote chez la souris. Julien Dana, est-ce que c'est aussi envisageable chez l'homme?
Alors bien sûr que c'est envisageable chez l'homme, c'est déjà d'ailleurs une application thérapeutique dans un cas particulier qui est les infections chroniques à Clostridium difficile. Donc c'est une bactérie qui est antibiotique, antibiorésistante, donc on va avoir des infections chroniques à cette bactérie. Et c'est déjà appliqué en clinique, effectivement, de faire un transfert de flore microbienne entre un individu sain et un individu malade. Et ça permet de se débarrasser, en fait, de la bactérie pathogène qui était présente dans les individus malades. Et dans le cadre du diabète, on pourrait penser que c'est effectivement une voie thérapeutique intéressante, puisque chez la souris, dans les modèles murins, ce sont des choses qui fonctionnent, puisqu'effectivement, on peut diminuer le développement de la maladie lorsqu'on transfère un microbiote d'une souris non malade à une souris qui normalement devrait développer la maladie. On arrive à la protéger contre le développement de la maladie en transférant le microbiote intestinal.
D'accord. Et il me semblait, chez l'homme aussi, vous m'aviez parlé de la maladie de Crohn, il me semble, qui est, sur laquelle des essais étaient assez concluants.
Il y a des essais thérapeutiques en cours, oui, des essais cliniques en cours, oui.
D'accord.
Contre les, c'est parce que forcément, d'un point de vue thérapeutique, on comprend logiquement que les maladies intestinales inflammatoires sont les premières et qui apparaîtraient comme les plus simples, entre guillemets, à soigner à l'aide d'un transfert de flore microbienne, puisqu'on est directement en contact, en fait, avec la flore microbienne.
Je ne sais pas si c'est le cas pour l'obésité, en l'occurrence, si on commence déjà à faire des transferts.
Enfin, déjà, ça a été fait dans le diabète, puisque en fait, il y a une expérience, et ça a été publié il y a deux, trois ans, où effectivement des personnes diabétiques de type 2, hein, cette fois, ont reçu du microbiote de personnes non diabétiques. Et ce qui a été fait, c'est qu'après 6 semaines, on a regardé l'amélioration du diabète et, en fait, en l'occurrence, de la sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire, est-ce que les tissus, le muscle, le tissu graisseux, étaient plus sensibles à l'insuline? Et donc, effectivement, après 6 semaines, il y avait une amélioration chez ces personnes donc diabétiques de type 2 qui avaient reçu du microbiote de personnes non diabétiques. La question qui se pose aujourd'hui, donc ça, c'est expérimental, hein. La question qui se pose aujourd'hui, c'est bien évidemment comment faire, en fait. Enfin, comment on peut imaginer à titre thérapeutique, c'est pas si évident. Et surtout, le maintien, puisqu'en fait, ce sont des maladies chroniques. Hein, et on ne peut pas imaginer qu'un seul transfert va régler le problème. Donc, ce qui est beaucoup regardé aussi, c'est comment, après un transfert, on a tendance à récupérer, en fait, son propre microbiote. Donc, comment, après un transfert, on pourrait le maintien dans le temps. Et pour l'instant, on voit qu'on récupère, en fait, son propre microbiote. Donc, il y a beaucoup de travail, mais on peut imaginer, avant le transfert, qui est quand même un peu extrême dans les maladies métaboliques, essayer d'agir par l'alimentation, par exemple, sur la richesse.
Ouais, c'est la question que je voulais vous poser, oui. Donc, est-ce qu'on peut... Alors, peut-être, terminons sur les maladies... Enfin, terminons, façon de parler, sur les maladies. L'obésité aussi, les transferts sont envisageables ou c'est trop compliqué comme maladie chez l'humain ?
Chez l'humain, l'obésité, il n'y a pas une obésité, il y a des obésités, ce sont des pathologies complexes. Et donc, c'est vraiment une modification du tissu graisseux, de ces dialogues entre le tissu graisseux, le cerveau, entre le tissu graisseux, le foie, le muscle. Et donc, moi, j'ai du mal à imaginer qu'un seul transfert pourrait améliorer, pourrait régler le problème de l'obésité, mais en revanche, pourrait peut-être améliorer certains aspects. On a parlé de l'inflammation, pourrait peut-être améliorer le niveau d'inflammation chez les personnes obèses. Ça, c'est un point qui est assez commun, d'ailleurs, à plusieurs pathologies, ce qu'on appelle l'inflammation bas grade. Elle a un petit peu augmenté pendant longtemps, et ça détériore, en fait, les tissus, le tissu graisseux, le foie, le muscle et même le cerveau. D'accord. Donc, vous voyez, ça dépend sous quel angle on le prend et qu'est-ce qu'on cherche à améliorer.
Julien, quand on préparait l'émission, vous me disiez en tout cas ce qui était vraiment porteur d'espoir, c'est que ces transferts de microbiote semblent a priori sans effet secondaire, ce qui veut dire qu'on peut vraiment essayer des tas de choses alors.
La connaissance qu'on en a aujourd'hui, oui, suggère en tout cas qu'effectivement des effets secondaires seraient plus limités que par l'absorption de molécules pharmaceutiques classique, mais il faut quand même rester prudent et même si les donneurs actuellement de flore microbienne, donc il y a un screening pour effectivement contrôler l'absence de bactéries pathogènes et pour ne pas transférer aussi d'autres problèmes aux patients, mais on ne connaît encore vraiment pas tout de la flore microbienne et certaines flores pourraient être bénéfiques à certaines maladies, mais causer d'autres maladies. Donc il faut vraiment continuer à avoir une connaissance beaucoup plus fine en fait de la flore microbienne et des interactions à l'intérieur de cette flore microbienne avant de pouvoir généraliser cet outil comme outil thérapeutique.
D'accord. Est-ce qu'on peut enrichir notre microbiote tout simplement en modifiant notre alimentation sans parler de transfert de sel ou en prenant des probiotiques, Karine Clément ?
Alors oui, nous l'avons fait, en fait. On a identifié, on a publié ça il y a 3 ans, que environ 25-30% des personnes obèses, donc vous voyez, c'est pas tout le monde, avaient vraiment un effondrement de la richesse du microbiote, un microbiote vraiment pauvre. Et donc l'idée, c'était de regarder par un changement alimentaire si on pouvait l'enrichir. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. On a proposé à ces personnes de suivre un régime qui était appauvri en calories, mais particulier parce qu'il était très enrichi en fibres et aussi en protéines. Et on a montré qu'on était capable d'enrichir de 30% le microbiote des personnes qui avaient justement un microbiote appauvri. Et donc ça, c'était associé à une amélioration de l'inflammation bagrade dont on a parlé et aussi du niveau de résistance à l'insuline. Et en fait, on est en train de disséquer ces relations entre certains groupes bactériens et ces phénotypes, en fait, ces modifications, l'insulinorésistance et l'inflammation.
Et une personne saine, est-ce qu'elle peut contrôler elle-même son microbiote ou...
Cette perte, cet appauvrissement du microbiote, on le retrouve aussi chez des gens pas malades. Hein. C'est plus faible quand on regarde en fréquence, c'est peut-être plus proche de 10%, 15% des personnes. Là aussi, on peut imaginer qu'une alimentation plus diverse, ça aussi on l'a montré, plus diverse, joue un rôle dans la diversité et la richesse du microbiote. Donc voilà, la diversité, c'est important en règle générale.
et les probiotiques, ça sert à quelque chose? Ou alors tous ces fameux yaourts enrichis avec des tas de bonnes bactéries?
Alors, en fait, aujourd'hui, sur les probiotiques, donc les probiotiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bactéries vivantes hein, qui vont être administrées, et vous citez l'exemple des yaourts. Aujourd'hui, on soigne beaucoup de souris avec les probiotiques, hein, on peut dire ça comme ça. Chez l'homme, il n'y a pas encore eu vraiment la démonstration de l'efficacité. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de travail à faire sur les souches bactériennes et leurs effets biologiques. Et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, identifier vraiment les souches efficaces et faire la démonstration clinique de leur efficacité. On n'y est pas encore. Hein.
Oui, Julien, il me semble que vous m'expliquiez que dans tous les cas, finalement, les populations de l'intestin se trouvaient très bien entre elles et que ce n'était pas forcément facile de faire de la place à de nouvelles bactéries.
Oui, c'est un des aspects problématiques dans la prise de probiotiques. D'abord, c'est souvent les probiotiques ne sont qu'une seule espèce bactérienne, alors qu'on sait que dans la flore microbienne, toutes ces bactéries interagissent entre elles. Donc, on peut imaginer que c'est plus un ensemble de bactéries qui va être bénéfique plutôt qu'une seule espèce bactérienne. Et ensuite, effectivement, la flore microbienne est généralement à l'équilibre. C'est une homéostasie. Donc, si on apporte d'autres bactéries, il faut vraiment qu'elles aient un effet, qu'elles arrivent à faire leur place en fait dans cette flore microbienne. Et c'est pas du tout évident. Donc, c'est un peu la limite, je pense, des probiotiques. Il est difficile d'imaginer comment ces probiotiques, ces bactéries qu'on apporte en plus, vont réellement arriver à faire leur place au milieu d'une flore microbienne qui est déjà bien établie.
D'accord. En me documentant un peu avant de préparer cette émission, on n'arrive pas trop à savoir si c'est parce qu'on n'a pas assez de bonnes bactéries qu'on devient malade, ou si c'est parce qu'on est malade qu'on a moins de bonnes bactéries. Enfin, il y a un côté... un peu l'effet de la poule et de l'œuf. Est-ce que pour l'obésité, par exemple, ou pour le diabète, est-ce qu'on sait dans quel sens tout ça fonctionne?
Oui, alors typiquement, c'est ce concept, dans notre jargon, si on peut dire, de dysbiose, en fait, qui a été évoqué. Donc, ce qu'on imagine, c'est qu'on a évoqué la richesse, et ça, c'est associé à des grands déséquilibres, hein, donc l'enrichissement et la perte de certains groupes bactériens. Donc ça, c'est observé dans ces pathologies. Donc ce que vous évoquez, poule et l'œuf, moi, j'ai tendance à dire, on ne sait pas très bien, mais en revanche, comme ce sont des maladies chroniques, il y a un cercle vicieux qui s'installe entre ces modifications et les changements de notre biologie. Et ça s'auto-entretient. Donc la question qui est posée, je trouve, aujourd'hui, plus que la poule et l'œuf, parce que finalement, c'est tellement multifactoriel, il y a beaucoup de facteurs impliqués. Est-ce que c'est vraiment important de chercher la poule et l'œuf? L'enjeu, c'est de savoir si on va rompre ce cercle vicieux entre cette dysbiose et les modifications biologiques. Vous voyez, c'est un angle d'attaque. Est-ce qu'on va améliorer la santé métabolique, en l'occurrence des patients? Je crois que c'est ça qui est posé aujourd'hui. C'est le problème de la chronicisation, du caractère chronique de ces maladies et comment l'attaquer, finalement, d'un côté ou de l'autre. Parce qu'on pourrait imaginer, c'est tellement complexe qu'on peut imaginer des associations de traitements qui agissent sur le microbiote et puis aussi qui agissent sur nous directement,
sur la maladie. Bien sûr, voilà. D'accord. Oui. Pour rompre le cercle vicieux, d'accord. Oui. Donc, on disait tout à l'heure, finalement, toute cette flore bactérienne, on la connaît enfin, pour l'intestin depuis moitié des années 2000, et encore, on est encore loin du compte. Qu'est-ce qui reste à découvrir, Julien Dana ? Enfin, pas qu'est-ce qui reste à découvrir, mais oui, qu'est-ce qui reste à découvrir, Julien Dana ? Donc, on est plutôt au point sur la génomique, ou pas encore, déjà ?
Bah, on continue quand même, je pense, chaque jour à identifier des nouvelles bactéries qui sont présentes dans cette flore microbienne. Et surtout, le grand défi, c'est aussi de découvrir tous les métabolites, c'est-à-dire toutes les molécules qu'elles sont capables de produire. Et toutes ces molécules, comment elles sont capables d'interagir avec les différents tissus de notre organisme. On se rend compte aujourd'hui qu'elles sont capables d'interagir avec le cerveau, avec le pancréas, avec le foie, avec le tissu graisseux. Donc, C'est un champ de recherche vraiment extrêmement vaste parce que ces bactéries, encore une fois, sont en capacité de produire un nombre de molécules vraiment extrêmement important, et on se rend compte aujourd'hui que ces molécules sont toutes capables de cibler nos propres cellules. Donc c'est un champ de recherche extrêmement important, effectivement, parce que aujourd'hui on parle de métabolomique, c'est-à-dire que des analyses à grande échelle de toutes les molécules qu'une population d'une flore microbienne est capable de produire dans notre organisme. Et ça, c'est porteur, effectivement, de nombreuses découvertes et de nombreuses, peut-être, cibles thérapeutiques dans énormément de maladies différentes. Même maintenant, on s'intéresse à des maladies telles que l'autisme en lien avec la flore microbienne. Et on se rend compte que la flore microbienne est vraiment impliquée dans des maladies très diverses parce qu'elle est capable de réguler des fonctions physiologiques dans des organes très divers.
D'accord. On n'en est qu'au début, puisqu'on n'a pas encore répertorié. Enfin, donc les virus, les champignons, ça, on ne sait pas encore quel effet ça a sur nous.
Effectivement, et pour le moment, on s'intéresse vraiment principalement, je dirais, aux bactéries de la flore microbienne, mais il y a effectivement tous les virus et des champignons qui vivent aussi en symbiose avec nous dans la flore intestinale et qui, eux aussi, sont capables de produire un grand nombre de molécules capables d'influer sur notre physiologie.
D'accord. Et les autres populations de bactéries, on parlait tout à l'heure des populations cutanées, des populations de bactéries qu'on avait dans la bouche, même dans les poumons. Ça aussi, ça reste des champs à explorer. Karine, peut-être ?
Oui, absolument. Ouais. Si on prend l'exemple de la bouche, ce qu'on sait par des études d'épidémiologie depuis déjà pas mal de temps, c'est que, par exemple, l'infection buccale est associée à des maladies cardiovasculaires. Et donc, on peut imaginer qu'un déséquilibre entre la flore buccale et ces bactéries pathogènes puisse jouer un rôle. Donc, il y a là aussi un champ de recherche qui s'ouvre par d'ailleurs les mêmes techniques qu'on évoquait, par le séquençage, de regarder aussi les germes dans la bouche.
Donc, on a encore quelques dizaines d'années de recherche devant
plus,
nous.
Bien plus, certainement.
C'est peut-être pour terminer, Julien et puis Karine. C'est quoi la prochaine étape pour vous ? Sur quoi vous allez vous concentrer là, dans les 5-10 prochaines années ?
Alors nous, moi je m'intéresse particulièrement en fait aux interactions entre le système immunitaire et les cellules du pancréas qui sont ciblées par le système immunitaire. Et on essaye de démontrer de plus en plus que les cellules qui sont détruites durant le diabète auto-immun ne sont pas que des cibles, mais qu'elles sont aussi capables de se protéger activement. Et donc, comme on s'est rendu compte que la flore microbienne active les défenses en fait de ces petites cellules, on essaye d'identifier les molécules qui sont produites par ces cellules pancréatiques et quelles autres molécules sont produites par la flore microbienne pour induire ces défenses. Donc, on essaye d'étudier chaque ensemble de molécules, et il y a un grand nombre de molécules qui peuvent comme ça
influer sur les cellules interagir.
Ouais.
D'accord.
Et puis on essaye aussi d'étudier d'autres maladies auto-immunes. Donc on a lancé un projet actuellement sur un modèle de sclérose en plaques. Et là encore, on pense que les cellules, donc le neurone qui est la cible du système immunitaire dans la sclérose en plaques, pourrait lui aussi avoir des mécanismes de protection. On ne sait pas encore s'ils sont régulés par
le microbiote intestinal.
On ne sait pas encore, mais c'est notre hypothèse.
D'accord.
Donc c'est aussi toute une nouvelle recherche à débroussailler.
D'accord. Voilà. Et Karine, pour vous ?
L'enjeu pour nous, sont les pathologies métaboliques. Donc en fait, obésité, diabète et les complications. Donc on a évoqué cette problématique de la perte de richesse. Donc quelles sont les bactéries qui sont perdues et dont la perte peut entraîner les complications de l'obésité. Et on pense qu'une partie pourrait passer par justement l'inflammation et le système immunitaire. Donc il y a un enjeu qui est de mieux comprendre ces mécanismes-là. Et puis il y a un enjeu très clinique qui est de détecter les personnes qui ont une perte en fait de la diversité, parce que c'est pas tout le monde.
Avant qu'elle ne déclenche des maladies.
Voilà, donc parce que voilà, donc l'obésité d'une personne, c'est pas celle d'une autre. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir demain des tests diagnostiques permettant de repérer ceux qui commencent à avoir un effondrement de la richesse du microbiote et comment par la nutrition on pourrait corriger cette modification. Donc, quelque part, c'est un premier pas vers ce qu'on appelle aujourd'hui, dans des mots un peu pompeux, la nutrition personnalisée. Et donc ça nécessite également de bien connaître les comportements alimentaires, d'identifier ces personnes pour mieux, finalement, améliorer leur nutrition dans leur environnement. Et en fait, on a évoqué le nombre de gènes bactériens. Vous imaginez 10 millions de gènes. Et donc, c'est autant de données à traiter et à intégrer. Donc, il y a un vrai enjeu aussi qui est le traitement de l'information et l'intégration des données. Et ça, on a besoin, s'il y avait un petit message à donner au CNRS, à l'INSERM, à Aviesa, on a besoin de bioinformaticiens qui développent. Et encore une fois, la bioinformatique, c'est très vaste, mais qui soient capables d'intégrer ces données complexes.
Et donc, oui, de faire du traitement de l'information.
Absolument. Ouais. C'est l'enjeu de demain. C'est l'enjeu, on appelle ça big data. Les politiques utilisent ça, big data. Mais en réalité, traiter ces données, pour que la France soit compétitive dans le monde, on doit pouvoir avoir des gens compétents. Et c'est un vaste champ. Il y a énormément de choses à faire.
Très bien. Bon, ben voilà, l'appel est lancé. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Et en tout cas, je pense qu'on va tous manger beaucoup de fruits et de légumes désormais. Merci.